Alors, le titre, c'est la notion de parture des cours d'études et de recherche et la dialectique média-milieu. Bien, alors, c'est des mots un peu compliqués, tout ça. Donc, je vais essayer d'éclairer l'histoire. Alors, pour commencer, on va partir d'un exemple qui commence à être connu, c'est l'agrandissement du puzzle qui a été développé par Guy Brousseau, mais qui, à l'origine, vient de Piaget. Alors, donc, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit d'agrandir, on demande aux élèves d'agrandir ce puzzle-là, avec les différentes pièces, de manière à ce qu'une pièce qui faisait 4, ici, fasse 7 de longueur. Et donc, on donne aux élèves un carton rectangulaire sur lequel il y a ce puzzle, et puis de la matière première, de manière à ce qu'il reconstitue les pièces du puzzle agrandi. Qu'est-ce qui se passe en règle générale? C'est que, bon, il y a plusieurs, dit Guy Brousseau, stratégies qui arrivent, et une qui est assez prégnante, et on l'a vu encore il y a quelques années en troisième, quand on travaillait sur d'autres choses, donc c'est de rajouter 3, puisque pour passer de 4 à 7, il y a 3 d'écart, donc on ajoute 3 à chacune pièce du puzzle, et on fabrique les pièces pseudo-agrandies. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que quand on assemble les pièces, eh bien, on n'obtient plus un puzzle, il ne s'assemble plus convenablement, etc. Donc, dans ce cas-là, le puzzle est un milieu matériel. Donc, ce qui se passe, c'est que les pièces ne s'assemblent pas. Et donc, on a agi, les élèves ont agi sur un milieu qui est dans ce cas-là d'ordre matériel, bon, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et ce milieu a produit des rétroactions, c'est-à-dire que on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Ce qui disqualifie, du point de vue des élèves, l'ajout de 3. Donc, ceci est ce qu'on appelle un milieu, et je pense que Serge en avait parlé déjà. C'est ce que Guy Brousseau appelle le système antagoniste du système élève. C'est-à-dire, c'est celui qui est en quelque sorte opposé ou différent, sur lequel on agit et qui provoque des rétroactions. Il est dénué d'intention. Il vous veut ni du bien, ni du mal. Quand vous trébuchez sur une pierre dans la rue, voilà un milieu, mais la pierre en tant que telle, elle est complètement indifférente à votre existence, etc. Donc, c'est dénué d'intention, on agit là-dessus, et à partir d'un système d'action et de rétroaction, ce que Piaget appelait l'équilibration majorante, on arrive à produire des connaissances nouvelles à partir de modifications de schèmes, bon, etc., etc. Donc c'est très piagétien ce truc-là, même si c'est aussi un peu bachelardien, et c'est ça qui est gênant. Alors c'est gênant, mais dans la modélisation de Guy Brousseau, voilà ce qu'on appelle une situation, hein, qui traînait depuis quelques jours déjà comme définition. Vous avez ici un élève, l'élève agit sur le milieu, il y a des rétroactions, et ces rétroactions vont commencer à produire, alors S, plutôt un savoir ou des connaissances. Et ce que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une situation adidactique, puisque l'enseignant se garde en principe d'intervenir sur l'interaction de l'élève avec le milieu, et c'est cette interaction qui va provoquer des connaissances nouvelles, exemple du puzzle. Donc après, on va modifier ces stratégies. Alors il y a toutes sortes de stratégies qui apparaissent, par exemple 4 donne 7, il y a des élèves qui prennent une fonction affine, qui multiplient par 4 et qui retranchent 1, qui multiplient par 2, pardon, et qui retranchent 1, 2 fois 4, 8, moins 1, 7, etc., etc. Et puis par régulation, en fonction des rétroactions du milieu, on arrive à la connaissance. En fait, quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Alors, c'est extrait, ce que je viens de vous dire est extrait d'un ouvrage qui se trouve dans ma valise, là, qui s'appelle Rationnel et décimaux dans la scolarité obligatoire. Je vous ai scanné la première page et puis une partie de la table des matières. Ça fait 300 ou 400 pages, je ne me rappelle plus très bien. Et ça déroule l'enseignement des fractions et des décimaux au cours moyen. Alors en fait, quand on regarde les choses, ça couvre actuellement à peu près tout le programme de collège relatif à ce domaine des fractions, des rationnels et des décimaux, quand on regarde les choses. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça fourmille d'idées assez souvent géniales pour... Donc voilà ici un grand parcours, en quelque sorte, d'études et de recherches qui a été initié à partir de la théorie des situations. Vous voyez, ça a été publié en 87, mais ça a été bâti, conçu, passé dans les classes dans les années 70. Voilà. Bien, donc ça se trouve à l'IREM de Bordeaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez le commander pour un modique somme de, je ne sais pas combien, 20 euros ou quelque chose comme ça. Et c'est sur le site de Guy Brousseau aussi, et maintenant ça a été numérisé. Donc on peut même, grâce à Serge ici présent. Voilà, donc on peut le trouver gratuitement. Sur Al. Voilà, c'est sur Hyper Archive en ligne Al. Alors je disais que c'est pas si. C'est... Ah bah oui, d'accord, voilà la cavalerie.
Quand on parle de Brousseau.
T'attends.
Il nous surveille. L'œil est sur nous.
Oui, parce que ce modèle-là, en fait, c'est un modèle idéal. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors voilà comment ça va se passer. Ça se passe de la manière suivante. Et ça, c'est Guy Brousseau qui le dit dans l'ouvrage que je viens de vous montrer et qui le reprend dans le livre publié à La Pensée Sauvage qui s'appelle « Théorie des situations didactiques ». Alors, voilà, ici, j'ai pris des citations de Guy Brousseau. « Lorsque les enfants admettent qu'il doit y avoir une autre loi, puisque les rétroactions du milieu montrent que ce qu'on avait prévu, c'est faux, ça ne marche pas bien, quoi, ça va pas, et se mettent à chercher, les choses vont beaucoup plus vite. » Bon, parce qu'auparavant, il a fallu faire les pièces, voir que c'est bon. « Surtout si l'un d'eux ou le maître dispose les longueurs dans le tableau. » Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître des flèches. Alors, on a appelé ça des ostensifs, mais en fait, c'est des médias. C'est-à-dire qu'elles vous indiquent quelque chose pour peu que vous sachiez le lire, ce quelque chose-là. 4 donne 7. Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Il y a une fonction, bien entendu, d'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que la disposition indique certaines choses. Par exemple, que si 4 donne 7... qu'est-ce qui va se produire ? Les élèves vont dire 8 donne 14. Même s'il n'y a aucune pièce dans le puzzle qui fait 8 et qu'il va falloir agrandir. Alors ça ne sert à rien, mais c'est un appui. Parce que si 8 donne 14, après qu'est-ce qui se passe ? Les élèves cherchent et 1. 1, c'est donc 14 divisé par 8. 14 huitièmes. On simplifiera la fraction, mais peu importe. Et à partir du moment où ils ont un, après ils savent que pour retrouver 5, 6, 2, tout ce que l'on voudra. Alors ce qui est apparu ici, vous voyez que c'est un média qui vient prendre une place dans le milieu, c'est-à-dire qui permet d'agir et de produire des connaissances nouvelles. Donc le milieu qui était un milieu jusqu'à présent dénué d'intention, là, il est fortement intentionnel pour qui sait lire ce que signifie cela. Et évidemment, les élèves ont été habitués auparavant à dessiner des flèches pour mettre en correspondance certaines choses. Bon. Si on arrive au cours préparatoire ou au cours élémentaire avec ça, il ne se produira rien du tout, sans doute. Voilà, alors donc, ce qu'on voit apparaître, ce sont des médias. D'où une espèce de dialectique entre les médias et les milieux. Les médias viennent dans le milieu et permettent d'agir et sont des aides à l'action et provoquent des rétroactions eux aussi. Alors donc, un média c'est quoi ? C'est un procédé, alors là c'est la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire Larousse, ça ne vient pas de la didactique. C'est un procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de documents ou de messages sonores ou audiovisuels. C'est un terme qui apparaît dans les années 60 à travers l'expression « masse média » qui a un peu disparu, « masse » a disparu, il reste « média ». Bon, et évidemment, un procédé permettant la distribution, la diffusion, la communication d'œuvres ou de documents ou de messages sonores ou audiovisuels, ça porte une intention, celle d'informer et de communiquer. avec d'autres. Alors que le milieu adidactique, il était dénué d'intention. Hein. Les pièces du puzzle qui ne s'assemblent pas, elles n'ont pas envie de vous faire du mal. Ce n'est pas la pierre sur laquelle vous trébuchez non plus. Il n'y a aucune intention là derrière. Bon, Yves Chevallard, en 2008, a repris un petit peu la définition en disant que c'est une mise en représentation d'une partie du monde naturel ou social à l'adresse d'un certain public. Bon, on voit que le sens est toujours le même. Voilà. Donc, il faut tenir compte des médias. Alors, il y en a un qui est en première vue dans une classe, c'est le professeur, évidemment. Lui, il a fortement l'intention d'enseigner quelque chose aux élèves, bien entendu. Donc, dans la dialectique des médias et des milieux, il va falloir jouer sur l'intention à un moment donné, ou au contraire, dénuer d'intention, et puis allez-y, travaillez, puis vous verrez bien ce qui se produit, et ça va provoquer des rétroactions, et vous travaillerez comme ça. Donc, je reviens à cette diapositive. Donc, vous voyez ici que le milieu va permettre maintenant de s'enrichir des informations qui sont adressées à celui qui sait les interpréter, évidemment. Bon, si je suis, je ne sais pas, un cours de mathématiques en chinois, il y a de fortes chances que je n'y comprenne absolument rien, même si c'est adressé avec une intention d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Bon, il faut savoir le lire, le comprendre, l'entendre, l'interpréter, l'évaluer, etc., pour pouvoir s'en servir. Alors, ces informations-là, elles peuvent être obtenues par divers moyens, soit par une recherche, si on revient à la classe, à l'école, soit par une recherche documentaire, le manuel, l'internet, par exemple, qu'on a à disposition. Elles peuvent être données par un tiers, que l'on va interroger, le professeur, un élève, le grand frère, la grande sœur, le papa, la maman, etc. Ou par une écriture mathématique. Et là, on voit que la flèche est un média. Elle indique quelque chose et elle a été conçue à l'intention de. Alors, je vais vous donner quelques exemples maintenant où on va se servir de médias dans la démarche d'investigation. Ici, c'est extrait d'un mémoire de Master 2 qui a été fait à Marseille par Julia Marietti sous la direction d'Yves Chevallard. Et comme j'étais dans le jury, ben, j'ai repris des exemples parce que je trouvais que c'était intéressant. Alors, c'est un peu particulier puisque on a vu les diverses formes de la démarche d'investigation, etc. Là, on sortait un petit peu de l'organisation temporaire et matérielle, scolaire, traditionnelle. Ça se passe au collège du Vieux-Port, que les Marseillais connaissent parce que c'est un collège ZEP. Et ce sont des élèves qui viennent travailler le mercredi après-midi, volontaires évidemment. Et on se pose des questions, ils amènent des questions et on essaye de construire des réponses à ces questions. Alors ça se passait au moment du crash boursier de 2008, et donc voilà que les élèves avaient entendu le terme de trillion, parce que les médias parlaient de trillions de dollars qui avaient été perdus par des banques, etc., etc. Et évidemment, en France, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Par contre, ils connaissent le milliard, c'est 1000 millions, disent-ils. Mais qu'est-ce que c'est qu'un trillion, ou un trilliard, ou je ne sais pas trop quoi, de dollars. Alors, voilà comment la recherche a été menée. On cherche sur l'Internet un dictionnaire en ligne qui fournit une réponse. Un trillion, c'est un milliard de milliards. Mais, évidemment, ici, alors vous avez un média là, qui vous a informé. Ouais, mais attention. C'est pas parce qu'on vous informe que ce qui est dit est juste, est vrai. Donc on va rechercher dans les médias de manière à se créer un milieu qui va rétroagir. Voilà la dialectique média-milieu qui se met en place. Et on fait une autre recherche dans d'autres dictionnaires, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un autre dictionnaire définit un trillion comme étant égal à un million de billions. Alors bon, voilà quelque chose de nouveau maintenant. Rétroaction du milieu. Qu'est-ce qu'un billion? Alors bon, on continue la recherche sur l'Internet. Vous voyez la dialectique média-milieu qui se met en place. Le même dictionnaire précise qu'un billion vaut un million de millions. Alors donc, les élèves, c'est des élèves de 4e, 3e, ils connaissent ou ils connaissent pas les puissances de 10, mais ils connaissent quand même l'écriture des nombres avec des zéros, quoi, hein, l'écriture décimale des puissances de 10. Donc, ils comptent des zéros. Et donc, on a vérifié. Donc ici, le milieu constitué de la feuille de papier sur laquelle on a écrit tout ça et qu'on a compté des zéros permet une rétroaction. Ça marche, les deux définitions s'accordent. Mais on continue plus loin et on va sur le site des Échos, qui à ce moment-là devait être extrêmement consulté. Bon. Et un trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Bon. Ah, alors là, nouvelle question, est-ce que c'est la même chose, 1000 milliards de dollars, alors qu'ici c'était 1 milliard de milliards. Bon, alors 1000 milliards et 1 milliard de milliards, c'est quand même peut-être pas tout à fait la même chose. Qui dit le vrai ? Donc on va questionner les médias. Alors là, la recherche continue et voilà ce qui se passe. Alors regardez au passage, on est parti un peu dans l'économie, hein, au niveau de la classe de collège, quoi, un petit peu. Et là, on tombe sur un document en anglais, parce que quand on recherche sur le net, évidemment, alors là, on va travailler un peu l'anglais. Alors, où... Non, mais... Non, je dirais pas Inquiry-Based Science Education. D'ailleurs, je n'ai pas dit. Bon. Évidemment, je le sais. Extraordinaire. Bon.
C'est le dernier jour, excusez-moi.
Alors, je traduis en français pour les non-anglophones. Où, où un million valent-il, un billion valent-il, sont-ils égaux à un milliard ? On y lit que ce serait le cas, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, avant le 3 mai 61. Alors là, nous voilà partis, alors vous allez voir, dans l'instruction civique et les lois, etc., les décrets gouvernementaux et compagnie. Alors, cette précision, oui, alors là, cette précision répond à la question, où est-ce qu'un billion vaut 1000 milliards ? Alors, on trouve ça que par décret 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret 75, vous voyez, ah tiens, la loi, elle s'écrit comme ça. Voilà une découverte pour les élèves qui n'ont jamais rencontré ce genre de choses. Nous, on est bien rompus en lisant hebdomadairement le bulletin officiel de l'éducation nationale, une lecture passionnante, comme chacun sait, mais ça s'écrit comme ça, quoi, les lois. Du 4 décembre 1975, et bon, je passe, du 82-203 du 26 février 82. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce truc ? Il nous dit qu'il se trompe, parce qu'il fait une erreur, là. Le décret du 3 mai 61, publié au journal officiel, précise dans son annexe, pour énoncer les puissances de 10 à partir de 10 puissance 12, on applique la règle exprimée par la formule. Alors, au lieu de 16 exposants 6 n, c'est 10, évidemment. Donc il y a une faute de frappe à l'imprimerie nationale. Alors ils s'en sont aperçus plus tard et ils l'ont corrigé. Voilà. Bon, et on a ici la réponse. Au lieu, voilà, on devrait avoir, et en conséquence, un correctif apparaît le 11 août 61 à cette histoire-là. Voilà. Bon, donc, on a fait une démarche d'investigation là-dessus, on a appris des choses. Là, on est tombé sur des mathématiques du niveau du collège, hein, les puissances de 10, etc., même si l'exposant est un peu sophistiqué, 6 n, c'est ça. Bon, on a appris des choses. Voilà la dialectique média-milieu qui a fonctionné, puisqu'on est allé sur Internet, on a fait des recherches, etc., on a obtenu des informations, on a interrogé ces informations, donc il a fallu un milieu pour valider ou invalider les informations qui étaient données. On a appris des choses nouvelles dans différentes disciplines. Un autre exemple, toujours au collège du Vieux-Port, c'était la question « Pourquoi les insectes de nuit se précipitent-ils sur les sources de lumière ?» Bon, tout le monde a vérifié ça l'été, etc. Alors là, bon, il y a une preuve, bon, je ne vais pas aller bien loin, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, c'est-à-dire la science ne sait pas. Donc ils ont fait une recherche. Première réponse, c'était assez intéressant. Là, c'est parce qu'ils se dirigeraient par rapport à la Lune, dans la direction de la Lune. Et qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait une spirale qui converge sur la lampe. Et voilà pourquoi ils viennent s'écraser sur la lampe. Au passage, on a ici des angles correspondants, etc. On peut faire travailler les élèves là-dessus. Bon, c'est aussi le problème de 5e, 4e. Mais au départ, ces questions-là ont été amenées par les élèves. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une démarche d'investigation codisciplinaire, non finalisé, c'est-à-dire qu'au départ, celui qui dirigeait l'affaire ne savait pas où les choses allaient le mener, hein, parce que bon, C'est des questions qui ont été amenées par les élèves, etc. Bon, c'est pour ça que je disais qu'il fallait une autre forme scolaire. Ça peut difficilement vivre si on ne modifie pas un petit peu. Et c'est ce qui se passe dans les TPE, où on modifie l'organisation temporaire et matérielle de la classe au moment où on réalise un travail personnel encadré au niveau de la première. Donc là, c'était un mercredi après-midi. Alors, je vais en terminer de manière à céder la parole à mon compère. À moins qu'il ne soit pas prêt, je rallonge, je meuble ou bien non, non ça. Bon.
J'ai un petit problème technique.
Bon, mais t'as qu'à passer sur le mien, non?
C'est ce que je suis en train de...
D'accord. Alors, je disais que en mathématiques, il y a tout plein de médias. Pour qui c'est les lire? Voilà, alors bon, là, c'est la dernière diapo, vous voyez. Ici, on a des parallèles, etc. Enfin, bon, on peut travailler équidistante, on peut travailler les angles correspondants, expliquer la spirale, bon, tout ce qu'on voudra. Alors, un exemple de média courant en mathématiques, c'est la formule de maths. Alors, imaginons la situation suivante. L'aire du disque, élève de 6e, c'est quoi? C'est pi r au carré ou c'est 2pi r? Bon, il peut se poser cette question-là. Il a vu qu'il y avait des formules sur le cercle, là, avec pi au milieu, mais il ne sait plus très bien ce que c'est exactement. Alors, deux possibilités. Le professeur peut lui dire, l'aire du disque, ben c'est pi r carré, c'est pas 2pi r, enfin, tu as appris ça, et tu l'as pas appris, et tu devrais le savoir, et etc. Donc là, c'est le média qui informe directement l'élève de la réponse qu'il aurait dû avoir. Mais un élève un peu malin, il va se dire une aire, bon, imaginons qu'on ait donné dans un problème, etc., et le rayon fait, je sais pas trop quoi, 4 cm, bon... Ben, un élève qui a quelques connaissances, un peu mathématiques, il va se dire, une aire, ça s'exprime en quoi? Ça s'exprime en centimètres ou en centimètres carrés? Alors, si ça s'exprime en centimètres carrés, est-ce que depuis hier, où il n'y a pas de carré, ça va être la bonne réponse? Autrement dit, la formule, un peu comme la flèche, pour celui qui sait la lire, vous donne une information. Bien. Et donc, cette formule mathématique peut être considérée comme un média qui, dans ce cas-là, fournira une information de type procédural, c'est-à-dire, elle dira le programme de calcul qu'il faut exécuter pour arriver à trouver l'aire du disque. Voilà. Et elle dit autre chose encore. Elle dit, par exemple, que l'aire du disque de rayon R est supérieure à l'aire de 3 carrés de rayon R, 2 carrés de côté R, excusez-moi, c'est la fin, puisque c'est 3 R carrés, si je sais que pi c'est à peu près 3,14, comme le savent les élèves en principe, eh bien c'est supérieur. Donc l'aire d'un disque, c'est plus grand que l'aire de 3 carrés de même côté que le rayon. Voilà une autre information que nous donne la formule. C'est un média. Évidemment, il faut savoir le faire parler, l'entendre, le média. Un peu comme mon cours en chinois, etc. Voilà, et donc, dans cette logique de démarche d'investigation en mathématiques, en fait, il s'agit plus d'apprendre des réponses, mais d'apprendre à construire des réponses à partir de cette dialectique entre les milieux et les médias, en laissant, bien sûr, une plus large place à l'autonomie et à l'action des élèves sous contrôle du professeur qui évidemment ne disparaît pas du tout, bien au contraire. Voilà.